Islamophobia, le podcast.
Si l'on se fie au discours médiatique et politique dominant, il n'y a pas d'islamophobie en France. Si la visibilité du fait musulman est sans cesse stigmatisée, si l'on empile les législations d'exception contre les personnes musulmanes, si l'on ferme ton école, ta mosquée, si l'on expulse ton imam, dissout l'association où tu étais bénévole, si on te refuse un emploi pour ton nom, pour ta barbe ou ton hijab, c'est pour le bien de la société. C'est pour lutter contre le séparatisme, défendre la République, la laïcité, l'égalité homme-femme, etc. Curieuse époque que la nôtre, qui fait de la résistance le maître mot de tous les conservatismes. Le champ politique, les chaînes d'information en continu, les réseaux sociaux, les grands médias regorgent de ces résistants qui combattent des fléaux qu'ils nomment immigration massive, bien-pensance, islamisme, féminisme, pensée woke, racialisme, etc. Sans surprise, aucun de ces thèmes ne porte sur les grandes orientations économiques. Parmi les fléaux qui sont régulièrement dénoncés, il y a bien sûr celui d'une prétendue islamophobie. Ce mot est accusé de tous les maux. On lui reproche d'être un puissant mécanisme de censure qui empêcherait toute discussion sur l'islam et les musulmans. On lui reproche aussi d'être un outil de conquête et de propagande au profit de l'agenda islamiste. Le terme aurait également pour défaut de figer les personnes musulmanes dans une posture victimaire, une attitude de repli, voire de haine de la France. Le mot islamophobie serait donc à bannir de toute discussion publique. La multiplication de ces énoncés a pour effet premier de désarmer la critique légitime de la politique islamophobe menée par le gouvernement. En jetant le discrédit sur le mot islamophobie, on se contente de casser le thermomètre. L'autre effet de ces énoncés est de nous faire perdre un temps précieux. Au lieu d'étudier le fond de la question, nous restons en surface. Nous menons la bataille uniquement sur le terrain sémantique, terrain choisi par nos adversaires. L'écrivaine états-unienne Toni Morrison disait que l'une des fonctions du racisme est de vous faire perdre votre temps, de vous détourner de vos objectifs premiers. Comment expliquer l'ampleur de ce déni autour de l'islamophobie et comment sortir des débats piégés sur l'usage du mot? C'est l'objet du présent épisode.
Vous êtes sur Islamophobia, plateforme en accès libre sur l'islamophobie.
Je voudrais dire quelques mots sur la querelle de l'islamophobie. Donc ce mot qui existe depuis le 19e siècle, qui était utilisé par les administrateurs coloniaux à une époque où les musulmans étaient vus comme les principaux soutiens de l'ordre impérial français. Ce mot a donc été repris en 1979 par les révolutionnaires iraniens et a été utilisé comme une arme pour ne pas remettre en cause le dogme clérical. La force de cette création linguistique, c'est en quelque sorte de transformer la religion musulmane en un objet intouchable et de faire de l'islamophobie un délit d'opinion analogue à ce qui se passait à l'époque de l'Union soviétique.
Islamophobia, Rafik Chekat.
Vous venez d'entendre la voix d'un grand résistant, celle de Pascal Bruckner. Lui qui n'a de cesse, à longueur d'interview, de dire sa honte et sa culpabilité d'être issu d'une famille antisémite et collabo, n'est absolument pas en rupture de banc familial. Il en perpétue même l'héritage en faisant carrière sur la dénonciation de la gauche, des immigrés, des musulmans. Dans Un racisme imaginaire, Islamophobie et culpabilité, paru en 2017 chez Grasset, Bruckner réfute sur 250 pages le concept d'islamophobie. 250 pages de variations autour d'une seule idée. L'islamophobie est une tentative de censure et le cri de ralliement des islamistes et de tous ceux qui ont en horreur l'Occident et ses valeurs libérales. La faiblesse argumentative du livre ferait tache dans une dissertation de collégien. Par exemple, si le mot d'islamophobie est une tentative de censure, le moins que l'on puisse dire est qu'elle est totalement inefficace. Il est en permanence question d'islam et des musulmans dans les médias. L'argument de la censure est aussi peu crédible que celui qui prête au mollah iranien la paternité du concept. On le voit, il ne sert à rien de réfuter les propos polémiques de ces intellectuels qui officient comme médiateurs de l'islamophobie. Nous appliquerons par contre à ces médiateurs ce que Pierre Vidal-Naquet préconisait de faire dans un tout autre contexte au sujet des révisionnistes. Dans son livre « Les assassins de la mémoire », Vidal-Naquet conseiller de ne rien répondre aux révisionnistes, mais de discuter sur les révisionnistes, de se demander le pourquoi et le comment de leur apparition, d'entreprendre ce travail, mais de ne jamais discuter avec ces personnes. Pour lui, la cohérence intellectuelle est à ce prix. Dans notre cas précis, cela signifie non pas répondre aux arguments contre l'usage du terme d'islamophobie, mais interroger leur large diffusion. Les nombreux livres qui contestent l'existence même de l'islamophobie ont beau ne pas être rigoureux et sérieux, ils sont pris très au sérieux. C'est cette diffusion qui doit attirer notre attention. Aux négateurs de l'islamophobie et du racisme en général, nous n'avons rien à dire. On ne discute pas avec celles et ceux qui veulent nous reléguer à une citoyenneté de seconde zone. On ne discute pas avec ces personnes en pensant qu'avec elles, on peut avoir un débat rationnel. Parce qu'un débat qui consiste à savoir si vous êtes digne d'être respecté n'est pas un débat. C'est au mieux une insulte. Au pire, une déclaration de guerre. Cela ne veut pas dire tordre le bâton dans l'autre sens et fétichiser le terme d'islamophobie. Tous les concepts politiques et sociaux font l'objet de débats et sont sujets à contestation. Le concept d'islamophobie ne fait pas exception. Il n'est pas hors du champ de la critique. Comme tous les concepts, il doit être utilisé, non pas avec prudence ou précaution, mais avec soin, c'est-à-dire dans son sens vrai. C'est ce sens, ainsi que ceux de racisme institutionnel, de diversion et de victimisation, que nous aborderons dans les prochains épisodes.
C'était Islamophobia, le podcast, un programme conçu et présenté par Rafik Chekat. Production, Perspective Commune. Consultante, Tara Eiter. Toutes les informations sur islamophobia.fr. Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur la page Cotisop d'Islamophobia.